Et le duel, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Natacha, la prof que vous avez été, dit la fête à Macron ou la fête de Macron, puisque Marlène Schiappa a ouvert la polémique sur Twitter.
Elle a reçu une petite leçon de grammaire de la part d'une linguiste sur Twitter également, qui en effet lui a rappelé à raison que le sens n'était pas le même, puisque le fait de choisir volontairement l'expression populaire « la fête à Macron » impliquait une volonté, on va dire légèrement ironique, d'attaquer le président, et que la langue dite populaire est acceptée en linguistique. Ce n'est pas une faute de grammaire, c'est un usage populaire de la langue, qui au départ est une faute de grammaire, mais qui devient un usage spécifique. Donc il ne vaut mieux pas jouer sur ce registre-là. Je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à dire sur cet événement.
Tourner son pouce 7 fois avant de tweeter.
Voilà,
merci pour cet éclairage, Natacha. Avant de parler de la fête à Macron ou de la fête de Macron, un petit détour, tout petit détour par l'Océanie. Le président de la République terminait hier son séjour en Nouvelle-Calédonie. Un voyage à 6 mois du référendum du 4 novembre prochain sur la pleine accession à la souveraineté de ce territoire. Et le président de la République qui n'a pas l'intention de se prononcer pour ou contre l'indépendance.
Je ne prendrai pas parti dans ce référendum qui vient. Pas pour me soustraire à une responsabilité, mais parce que ça n'est justement pas ma responsabilité. Ce n'est pas au chef de l'État de prendre position sur une question qui n'est posée qu'aux seuls Calédoniens. Et une telle position, d'ailleurs, ne ferait que perturber et biaiser le débat.
Le président de la République, donc, en déplacement à Nouméa, Raphaël Glucksmann.
Eh bien, c'est bien, puisque comme on va parler du bilan de Macron ensuite, et là, je suis fondamentalement d'accord avec lui. Je pense qu'il a une position juste, mesurée.
Il n'a pas à se prononcer ?
Non, il n'a pas à se prononcer. Il est en position d'arbitre, de garant d'un processus démocratique. Et je pense qu'il adopte la juste position, sans en parler pendant des siècles, hein, puisque c'est pas une position qui évidemment fera beaucoup de débats a priori, mais c'est pour moi
enfin,
normal.
Enfin, elle en fait sur le caillou, comme on dit. Elle fait débat, cette position, Natacha Polony.
Cette position fait débat de la part de gens qui, justement, sont eux-mêmes partie prenante et qui voudraient avoir le président de la République de leur côté, alors que le président de la République, en effet, comme le disait Raphaël, doit être en position d'arbitre ou de garant du caractère démocratique de ce référendum, qui soulève des questions qui sont des questions éminemment douloureuses. On est, pour le coup, sur un territoire où la position coloniale de la France existe encore. Quand l'île est tenue par 1500 familles, on a le lien entre la question sociale et la question coloniale qui pose problème, et tant qu'il n'y aura pas de véritable réforme, de véritable travail social, alors il y aura tentation de quitter la France,
ce qui est normal. Puisque vous parlez justement de cette question de la mémoire et de l'histoire, le président de la République a remis au gouvernement de Nouvelle-Calédonie l'acte de prise de possession du territoire qui date du 24 septembre 1853, sans qu'on sache bien justement ce qu'il pense de cette histoire-là. C'est intéressant parce que pour le coup, il ne s'est pas prononcé non plus sur l'histoire coloniale ou l'histoire de la relation de la France avec la Nouvelle-Calédonie. À noter quand même qu'il a dit que la France ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie. Toujours question à la prof, sous-entendu la France ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie, sous-entendu si la Nouvelle-Calédonie quittait la France, ou bien la France ne serait pas ce qu'elle est sans la Nouvelle-Calédonie.
Alors justement, c'est toute l'ambiguïté de cette expression qui, entre nous, ne coûte rien.
Hein, c'est une sorte de « je vous ai compris ».
Voilà, c'est devenu d'ailleurs une phrase rhétorique utilisée dans chaque discours. La France ne serait pas la même sans les Juifs, la France ne serait pas la même sans les musulmans. On l'a entendu récemment, donc maintenant c'est la France ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie. Ça permet de ne rien dire du problème qui est un problème de répartition des richesses.
On appelle ça une tautologie, c'est-à-dire que la France ne serait évidemment pas la même sans le moindre... la plus petite parcelle de territoire qui aujourd'hui fait le territoire français. Donc la France ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie. Mais je pense, encore une fois, que ce n'est pas son rôle de s'investir plus que cela. Là, il s'exprime en formulant une tautologie. Quand il remet l'acte de prise de possession de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, il établit un fait, enfin, il rappelle un fait historique. Il n'a pas à émettre un jugement, il rappelle un fait historique qui est que, mine de rien, ce n'est pas un référendum qui a rattaché la Nouvelle-Calédonie à la France.
Oui.
C'est un acte de rapine territorial, comme il y en a toujours eu. Et donc, le fait est qu'aujourd'hui, c'est un progrès démocratique. Alors, on pourra parler de plein de régressions démocratiques par ailleurs. Mais ça, c'est un progrès démocratique qu'on puisse, en Nouvelle-Calédonie, avoir un référendum pour savoir enfin si les gens veulent participer à un destin commun avec le reste de la France ou s'ils ne le veulent pas.
Alors à noter justement que les partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France sont donnés largement favoris par les sondages. Si vous aviez à vous prononcer, mais vous n'avez pas à le faire, Natacha, vous seriez...
Je n'ai pas à me prononcer parce que je ne suis pas justement impliquée, je ne suis pas le fruit de cette histoire, ce que sont tous ces gens sur cette île. Ça s'appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça s'appelle l'autodétermination, et il n'y a pas de véritable démocratie s'il n'y a pas adhésion, même d'une toute petite entité de territoire, à l'entité qui la dépasse. J'ai un point de vue là-dessus, mais qui, à mon avis, ne connaît pas intimement les réalités de l'île. Encore une fois, je pense que c'est par une réforme sociale véritable qu'on pourrait donner envie au peuple kanak de rester dans la République française.
Raphaël, vous avez un point de vue aussi sur la question de l'indépendance ou pas ?
Non, moi, mon point de vue, c'est sur la question de la possibilité de l'indépendance. Je suis content que la France, aujourd'hui, donne la possibilité de choisir. Parce que la nation est un référendum quotidien et qu'il faut donc que les gens veuillent participer à une aventure collective. C'est la fin, justement, de cette époque des actes de prise de possession d'un territoire. On n'est plus dans la rapine et on ne conserve pas son butin comme Harpagon. On essaye de faire un destin commun. Et donc, pour faire un destin commun, il faut que les gens soient d'accord.
Verdict donc le 4 novembre prochain sur la pleine accession de la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Oui ou non, c'est ce que devront déterminer les électeurs. Le duel continue.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Le duel.
Avant d'accueillir Thomas Guénolé, le journal Le Monde publiait hier une grande enquête menée par le CEVIPOF, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Ipsos sur un échantillon, et il faut le noter, de 14 000 personnes, avec une enquête sur le président de la République, Emmanuel Macron, perçu de plus en plus à droite. L'étiquette de président des riches lui colle vraiment à la peau. C'est un marqueur très négatif, mais qui pourtant ne nuit pas à la popularité du président, qui reste assez solide. C'est rapidement l'une des conclusions de cette enquête. Comment expliquer ce paradoxe-là, Raphaël ?
Alors, déjà, il faut noter que c'est extrêmement rare, mais il y a 8 Français sur 10, y compris des gens qui donc vont approuver de manière générale la politique d'Emmanuel Macron, qui pensent que sa politique favorise les catégories aisées. Et seulement 15% qui pensent que ça favorise l'ensemble des Français. Et évidemment, personne ne pense, quasiment personne, que ça favorise les catégories populaires ou les classes moyennes.
Et pourtant.
Et donc, il y a réellement, c'est pas un hashtag sur Twitter, il y a réellement la perception dans la population qu'il y a un déséquilibre extrêmement profond dans la politique qui est menée. Et pourtant, si les gens avaient aujourd'hui la possibilité de voter, ils revoteraient probablement dans une proportion supérieure pour Emmanuel Macron à celle de l'élection présidentielle. Et pourtant, 45% des gens se disent globalement satisfaits par la politique. Et je pense qu'une autre partie du sondage explique cela, c'est l'infinie pauvreté de ce qui est opposé à Emmanuel Macron. Et qu'il y a un choix par défaut. C'est-à-dire que quand on prend critère par critère la politique, eh bien, les Français
c'est
sont extrêmement critiques.
Bah
si, 14% seulement des Français pensent que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, 8% Laurent Wauquiez, 7% ou 4% Olivier Faure feraient mieux. Donc ça veut dire que de toute façon, ils regardent et ils se disent « Bah voilà, j'ai pas vraiment le choix, celui-là fait plutôt mieux que les autres. »
Natacha.
Exactement. Là, je pense que la lecture de cette enquête doit être telle. Simplement, si on veut...
Il faut noter malgré tout que sa popularité résiste étonnamment si l'on compare la situation de ses prédécesseurs et en remontant assez loin jusqu'à Giscard d'Estaing au bout d'un an passé à l'Élysée.
Bien sûr.
45% des personnes interrogées jugent positivement l'action du chef de l'État.
Je pense que ce qui me frappe, c'est de voir qu'il est jugé très positivement sur les questions internationales et européennes. Mm-hmm. Où là, on a eu la plus grande opération de communication. C'est-à-dire que concrètement, sur les questions européennes, il n'a rien obtenu, mais il a essayé et il a fait savoir qu'il essayait. Et du coup, c'est jugé positivement, comme s'il agissait. Alors évidemment, on a des réformes aussi qui sont plutôt appréciées, l'interdiction du glyphosate ou ce genre de choses. Voilà. Et puis, en revanche, là où on entre dans le concret, c'est-à-dire dans les décisions qui sont réellement prises, alors là, En revanche, on observe un mécontentement. Ce qui est quand même assez paradoxal. Ça nous montre que pour l'instant, il y a d'abord une attente de la part des Français et surtout, il y a une difficulté à juger d'une politique qui ne donne pas ses résultats et qui joue énormément sur les effets d'annonce. Donc je pense que c'est simplement le fait d'une perception de ce que doit être un président. C'est-à-dire que ce président-là fait président et on nous le répète suffisamment puisque l'ensemble des médias ne cesse de disserter sur la question de l'autoritarisme d'Emmanuel Macron, de son incarnation du pouvoir, et lui-même ne cesse de faire cela. C'est-à-dire que sa seule réflexion sur son rôle, c'est de parler de la verticalité qu'il assume. Jamais il n'est capable de parler d'autre chose, c'est-à-dire du pouvoir pour quoi faire. Qu'est-ce qu'il l'entend réellement faire d'ailleurs,
malgré le nombre de réformes engagées.
Mais d'ailleurs, dans cette enquête, ce que l'on voit, c'est après, par exemple, des questions du genre, pensez-vous qu'il soit en train de réformer la France? Êtes-vous pour les réformes? Quel contenu de réforme, encore une fois? Posons-nous la question, quelle est la vision qu'Emmanuel Macron a de la France? Or, jamais cette question-là n'est vraiment posée par les médias.
Ce qui est intéressant, juste d'un mot, Raphaël, c'est de noter qu'Emmanuel Macron peut se rassurer en constatant le soutien que lui conservent les Français qui l'ont élu. 70% des électeurs du premier tour, 70% des personnes qui, au premier tour, ont voté Emmanuel Macron, jugent son bilan positif, et même 56% de ceux qui ont voté pour lui au second tour, même si beaucoup l'avaient choisi pour faire barrage à Marine Le Pen.
Effectivement, il peut, quand il regarde ce sondage, et en règle générale, quand il regarde la manière dont il a réussi à faire passer ses réformes, il peut être content. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est lancer une alerte, c'est attention, décroîtra quelques jours ce dédain triomphant. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décalage immense entre l'approbation générale, qui est nécessairement un effet de comparaison, et l'approbation ou la qualification des réformes concrètes. Et sur un point en particulier, les électeurs qui ont voté pour lui au premier tour ou au deuxième tour, ces électeurs se définissent comme de centre-gauche. Ils sont au centre. Eh bien, lui est perçu comme étant très clairement, très nettement à droite, menant une politique qui très clairement et très nettement favorise les gens qui sont déjà les plus favorisés d'entre nous. Or là, il y a une brèche, à condition que quelque chose émerge, il y a une brèche qui peut conduire à une chute rapide de la popularité d'Emmanuel Macron.
On peut ajouter juste une chose. Il ne cesse, je le disais, de parler de sa vision du pouvoir, et ce qui émerge de sa vision de la France, c'est que la France est une puissance. Et cette façon de s'inscrire dans la lignée des rois de France, ça consiste à nous dire « la France doit rester une grande puissance ». Certes, mais quelle puissance?
Ça devrait vous plaire, vous qui nous aviez voué la semaine dernière votre passion pour Louis XI.
Louis XI a administré la France. Louis XI se déguisait pour descendre dans Paris pour comprendre ce que voulait le peuple.
Natacha Pollini, si vous êtes honnête, la basique de Saint-Denis, tout ce décorum,
si Emmanuel Macron ne se déguise pas pour sortir dans la rue, plaît, les Français.
Ça vous plaît au fond?
Non, ce qui m'intéresse, c'est l'humanisme français. Or, jamais je n'entends la défense de la spécificité des modes de vie, des façons d'être au monde qu'a construit la France. Et c'est ça que j'attends.